Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
Donc vous l'avez entendu, et puis sans doute que beaucoup vous le savez, on termine aujourd'hui une série qui s'est articulée autour de la vie d'un gars qu'on trouve dans la Bible qui s'appelle Joseph. Il naît dans une famille dysfonctionnelle, le gars a 10 grands frères, son père Jacob avait l'équivalent de 4 femmes, et puis on nous dit rapidement que ses frères le détestaient, on nous dit aussi qu'il était le chouchou de son père, on voit aussi rapidement qu'il était assez arrogant comme personnage. Et puis je vous fais très rapidement un peu son histoire, il a été vendu en tant qu'esclave par ses frères, ensuite il va se retrouver accusé à tort et puis il va se retrouver en prison. Et finalement il va être capable depuis la prison d'interpréter les rêves du pharaon, il est en Égypte, et puis ça va lui donner littéralement les clés du royaume, il sera comme le numéro 2 d'Égypte. Et puis de cette position-là, il va prévenir en fait un temps de famine, il va être capable de prévenir ça pour l'Égypte, mais plus largement, il va réussir à faire en fait des stocks de nourriture et tout ça qui vont permettre de bénir largement au-delà de l'Égypte et notamment de sauver en fait sa famille et son peuple qui étaient eux frappés par cette famine. Alors on a souligné pas mal de choses dans cette série, je veux en donner rapidement quelques-unes pour ceux qui prennent des notes. Peut-être si vous n'étiez pas là, vous n'avez pas entendu, ça vous donnera envie d'écouter ces messages. On a vu que c'était bon de rêver avec Dieu. Joseph, on le voit, dès ses 17 ans, on nous dit qu'il a un rêve, et puis ce rêve va rester comme en filigrane, puis la relation de Joseph avec les rêves va être là, présente quasiment tout du long de sa vie. On a vu aussi que Dieu veut t'utiliser indépendamment de tes origines. Joseph avait un passé relativement pourri, je l'ai rappelé ici, dysfonctionnel, des relations familiales difficiles ou quoi, mais ça n'a pas empêché qu'il soit utilisé par Dieu. On a vu qu'il fallait veiller à ne pas idolâtrer nos rêves, trouver ce bon équilibre. C'est bien d'avoir des rêves, mais attention de ne pas faire de nos rêves nos idoles. On a vu aussi que l'Éternel était avec nous, même quand on ne le voyait pas. Quand vous lisez la vie de Joseph, il nous est dit « L'Éternel était avec Joseph », que ce soit quand il est en esclavage, que ce soit quand il est en prison, l'Éternel restait avec lui, même si physiquement il ne pouvait pas forcément le voir. On a vu l'importance de rester intègre dans notre course. Et finalement, c'était la semaine passée, on a vu que faire confiance à Dieu nous met toujours en mouvement. Alors, vous pouvez réécouter ces messages en ligne. Je vous encourage à le faire si vous n'avez pas écouté. Et puis, je profite aussi de dire merci à tous ceux qui nous suivent à distance, que ce soit podcast, que ce soit vidéo. Je ne sais pas si vous le savez, il y en a beaucoup, des centaines chaque semaine qui nous suivent en ligne. Et on reçoit des fois des messages comme ça. On reçoit des messages sur les comptes, on reçoit des emails. Des fois, il y a des rencontres vraiment fortuites dans la ville aussi. Des gens qui disent « Hey, merci pour les messages ». Qui êtes-vous ? On va maintenant aller dans la Bible, on va prendre Genèse au chapitre 50. Je pense que ceux qui ont une Bible papier, vous y êtes déjà, je vous avais demandé de le faire. Je vous encourage à aller, on va lire les versets 12 à 21. Et pour ceux, encore une fois, qui sont là pour la première fois, merci d'être là. À chaque fois que je lis la Bible, ça s'affiche au-dessus de moi. Donc, vous en faites pas si jamais vous avez peur, vous dites « Mince, où je dois trouver ma Bible dans mon grand sac ?» Vous en faites pas. Genèse 50, les versets 12 à 21. C'est ainsi que les fils de Jacob se conformèrent aux ordres de leur père. Ils le transportèrent dans le pays de Canaan et l'enterrèrent dans la grotte du champ de Macpéla, achetée comme propriété funéraire par Abraham à Éphron le Hittite et qui se trouve vis-à-vis de Mamré. Après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avions fait, hum. » Verset 16, « Ils firent dire alors à Joseph, « Ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime de tes serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dire « Nous sommes tes serviteurs ». Joseph leur dit « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu ? Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Alors, on va rester vraiment proche de ce passage. J'ai juste besoin de vous donner un petit peu de détails, une toute petite ellipse dans le temps. Si vous avez suivi régulièrement la série, vous avez vu qu'on a fait un saut de quasiment 10 chapitres. La dernière fois, on a terminé au début de Genèse 41. Là, on est à Genèse 50. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 10 chapitres ? On a vu donc les frères de Joseph le vendre. On a vu Joseph chez Potiphar en tant qu'esclave, aller en prison. On a vu aussi qu'ensuite, en prison, il va interpréter le rêve de deux hauts fonctionnaires. On a vu que ces gars vont l'oublier en prison, en tout cas celui qui va rester en vie. Et puis après ça, on nous dit Pharaon a eu un rêve, et puis nous on n'a plus prêché après ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis le rêve du Pharaon ? On voit en fait que Joseph va expliquer au Pharaon son rêve, le Pharaon va donc lui faire confiance, il va lui donner des responsabilités, il va y avoir 7 années d'abondance, ensuite il va y avoir 7 années de famine, mais à cause de la place que Joseph a eue et du fait qu'il avait été averti par Dieu au travers des rêves de Pharaon, l'Égypte est dans l'abondance, et même dans un temps de famine, devient une ressource pour les autres. C'est ça qu'on n'a pas lu dans la Bible ensemble, mais que je vous ai raconté. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce temps-là, à ce moment-là, les frères de Joseph vont retourner vers Joseph. Ils reviennent vers Joseph. Ils s'inclinent vers lui. Ils ne se rendent pas compte que c'est Joseph. Joseph va faire 2-3 petits tricks, 2-3 petites farces, moyennement drôles, à ses frères, pour leur dire, retournez, amenez votre père, amenez votre autre frère que vous n'avez pas amené, revenez ici avec votre famille. Les frères ont très peur, ils ne savent pas ce qui va se passer. Et finalement, ils disent, tada, c'est moi Joseph, votre petit frère que vous avez vendu. Comment ça va les gars ? Et vous pensez bien qu'il y a quand même toujours une tension. Je vous dis, là, c'était dysfonctionnel. La dernière fois qu'il a vu ses frères, il était littéralement vendu par eux. Puis là, Joseph leur dit, venez, on se met bien, tout va bien. Et les frères sont contents, ils se sont sauvés d'une famine littéralement, mais ils continuent un peu à flipper. Et puis ensuite, il arrive la mort du patriarche, la mort de Jacob, qui est aussi appelé Israël. Et puis, suite à cette mort, les frères se disent, là, on est vraiment dans la... Ok. Vous avez compris le mot que je n'ai pas dit ? Ok, non, parce que je ne sais pas. On est mal barré. Hein ? Alors, ce qu'on a lu, c'est littéralement les derniers verset de la vie de Joseph, et je crois que c'est une invitation profonde pour nous. Je vais vous donner cette invitation tout de suite pour vos notes, et puis ensuite on va l'étudier plus en détail. Je vais vous donner cette invitation de la part de Dieu, je crois, au travers de la vie de Joseph. Cette invitation, c'est la suivante. Laisse le trône à Dieu, prends ses lunettes et manifeste son cœur. Laisse le trône à Dieu, prend ses lunettes avec un S majuscule, les lunettes de Dieu, et manifeste son cœur, aussi un S majuscule, le cœur de Dieu. Dans les versets qu'on vient de lire, justement, Jacob vient de mourir. Il sort d'une période de deuil, une période qui a été difficile. Et puis là, il est enterré selon la volonté. C'est un petit peu les noms bizarres chez le Hittite, le champ en face de Mamré, tout ça. Et puis là, les frères de Joseph se disent, on est vraiment mal. Joseph va maintenant se venger de ce qu'on lui a fait plus jeune. Et littéralement, ils peuvent assez comprendre pourquoi il le ferait, en fait. Et du coup, les frères sont assez malins, ils se disent, on va dire quelque chose à Joseph. On va lui dire, et c'est ça, c'est un peu drama queen, hein, il faut le lire avec le bon ton. Ils vont dire, papa te fait dire, oh pardonne tes frères. C'est même pas les frères qui disent, Joseph on est vraiment désolé. Ils disent, papa te fait dire, pardonne tes frères, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Aime-les, prends soin d'eux. Ils prennent la place, ils donnent littéralement à Jacob des mots qu'il n'a jamais dit, parce qu'ils savent que Joseph aimait son père, et ils disent comme ça, on va s'en sortir, ça va aller. Puis ensuite, ils vont s'incliner devant Joseph. Encore une fois, si tu lis, c'est fascinant de voir le nombre de fois que ses frères s'inclinent devant lui, surtout quand tu mets ça en parallèle avec le rêve qu'il avait au départ, ou les rêves qu'il avait fait au départ. Et c'est vraiment, franchement un retournement de situation. Si on y pense, un moment, le gars a été dans un trou, on nous dit une citerne. Il a ensuite été vendu en esclavage, il a été en prison, il a été abandonné. Et maintenant, il se retrouve numéro 2 dans le pays où tout va bien, alors que tout le monde autour galère. Tout prospère pour lui et ceux qui lui ont causé tant de peine sont à sa merci. Imaginez la situation. Puis eux sont là en train de dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et si vous avez un cœur de vengeance, vous pouvez dire, c'est le moment, Joseph, vas-y. Vas-y, mets-les en prison, même une année, tu sais. Par rapport à tout ce que toi, t'as fait, vas-y, rends-les tes esclaves. Ils n'ont qu'à te servir maintenant. Mais Joseph, lui, fait quelque chose de tout à fait différent. Et la Bible nous le dit. En entendant ce que ses frères disent, Joseph se met à pleurer. Joseph, lui, se met à pleurer. Et il pleure parce qu'il comprend que ses frères n'ont pas compris. Joseph, il arrive à la réalisation, il dit, « Oh non, les gars, vous en êtes encore là. Vous n'avez pas compris tout ce qui s'est passé depuis. » Il a eu des révélations du cœur de Dieu tout au long de sa vie, ce Joseph. Et d'un coup, il se rend compte que ses frères n'ont pas eu cette révélation-là. Et Joseph leur dit, « Je vous pardonne. Je veux vous mettre bien. Je vous aime et je veux que vous puissiez vivre bien. » Mais il voit que ses frères, eux, n'ont pas confiance. Alors qu'il a déjà démontré son amour, il a déjà démontré sa gentillesse, il a déjà démontré sa bonté, mais les frères n'ont pas confiance en Joseph. Alors, dans la réponse de Joseph, j'aimerais souligner trois versets qui donnent les trois points de mon message, versets 19, 20 et 21, et je les relis maintenant pour qu'on soit bien ensemble là-dessus. Joseph leur dit, « N'ayez pas peur, suis-je en effet à la place de Dieu ?» Verset 20, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Verset 21, « Désormais, n'ayez donc plus peur, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. » Il y a un théologien du XXe siècle qui s'appelle Derek Kidner, qui est connu notamment pour ses commentaires bibliques de l'Ancien Testament, et dit la chose suivante sur cette réponse de Joseph. Chaque phrase de cette réponse en trois temps est le but ultime de la foi en Christ. Abandonner à Dieu le principe de se faire justice, voir la providence divine, y compris au travers des mauvaises pratiques humaines, et réparer les torts qui nous sont faits, non seulement avec le pardon, mais aussi par des manifestations tangibles d'affection. Voici des attitudes qui préfigurent le caractère du Christ. C'est un théologien qui parle, il y en a plein qui sont « ok ». On va voir ça en détail. Vous êtes prêts ? Premier point, laisse le trône à Dieu. Laisse le trône à Dieu. Si vous faites une étude aujourd'hui, puis vous regardez quelles sont les objections que les gens font le plus au christianisme, on pourrait dire la chose suivante, ils font plutôt des objections dites personnelles que historiques ou philosophiques. Je vais vous donner un exemple tout à fait. Il y a plein de gens qui remettent en question que Dieu a existé, mais depuis bientôt 100 ans, il n'y a aucun historien sérieux qui remet ça en question. Mais des gens, oui. Et souvent, les objections qu'on fait au christianisme, ce sont des objections plutôt personnelles qu'historiques ou philosophiques. Je m'explique. Souvent, les gens ont un problème et articulent des phrases qui vont dans cette idée. Si Dieu existe, alors pourquoi ? Trois petits points. Vous avez peut-être déjà entendu ça ? Quelques-uns, ok. Si Dieu existe, alors pourquoi ? Trois petits points. Ou alors, si Dieu entend mes prières ou entend les prières, alors il ? Trois petits points. Ou alors, plus proche de nous peut-être encore, pourquoi Dieu ne répond pas à ce que je lui ai tant demandé ? En d'autres termes, la plupart du temps, on imagine qu'on sait mieux que Dieu. La plupart du temps, on se positionne comme si nous, on savait mieux que Dieu. Si moi, j'étais Dieu aussi, si Dieu était vraiment Dieu, si Dieu était qui, alors il faudrait que. Et en prenant cette posture, on suppose qu'on sait mieux que Dieu, nous. On aimerait presque dire à Dieu comment faire Dieu. Dieu, je vais t'expliquer, parce qu'en ce moment, j'ai un problème. Je t'ai prié. Tu es Dieu. Voilà ce que tu devrais faire en tant que Dieu. Ça me fait penser des fois à ma fille Elisha, qui aime nous expliquer à nous, parents, ce qu'on pourrait faire. Des fois, en tant que fille, elle a vraiment, tu sais, la bonne idée. Et elle vient en disant, « Papa, j'ai eu une bonne idée. On pourrait. » Et vraiment, je me dis, « Mais je ne suis pas sûr que c'est gentil, mais tu es ma fille, tu n'es pas le père, là. » Et j'aime tes idées. J'avoue, hein, ma fille a beaucoup de créativité dans les idées. Mais elle ne sait pas ce que c'est que d'être père. Il y a plein d'éléments qu'elle ne maîtrise pas. Il y a plein de choses qu'elle n'a pas. Mais très souvent, on fait la même chose avec Dieu. La plupart du temps, on imagine qu'on sait mieux que Dieu n'aurait qu'à trois petits points. Et dans le verset 19, Joseph, lui, pose la question suivante. « Suis-je en effet à la place de Dieu ?» Joseph dit, « Mais ce n'est pas moi qui suis Dieu, les gars. Ses frères viennent, puis le début de la réponse, Joseph, il dit, c'est pas, je ne suis pas Dieu. Mais si on est sincère, nous, on aimerait souvent être à la place de Dieu. Un ami à moi aime dire la chose suivante quand il parle, et notamment quand il est dans un processus où les gens commencent à en arriver à se dire peut-être que Dieu, il leur dit la chose suivante. Dans ton cœur, il y a un trône, et la seule question qui compte, c'est à qui vas-tu laisser la place de ce trône ? Parce que souvent on bataille, ouais, mais si, puis ça, puis tu sais, quand j'étais plus petit, puis ça, puis. Et oui, on a peut-être vécu des injustices. Joseph était bien placé pour avoir vécu des injustices. On a peut-être des bonnes raisons de dire, mais il aurait pu, il aurait fallu que... C'est tout à fait légitime. Mais rappelons-nous qu'on n'est pas à la place de Dieu. Au commencement de la Bible, il y a un seul commandement. Si vous ne le savez pas, dans les deux premiers chapitres de la Bible, il y a un seul commandement. Par la suite, il y en a plein d'autres. Hein. Mais au départ, il n'y en a qu'un seul. Ne mangez pas le fruit de cet arbre. Imagine la Bible à l'époque d'Adam et Ève. C'est sûr, il la connaissait par cœur. Ne mangez pas du fruit de cet arbre. Le reste, on discute, on rigole, on prend du temps ensemble, vous faites quelque chose de cette terre, on se marre, mais ne mangez pas le fruit de cet arbre. Et le serpent qui représente Satan va dire quelque chose d'extrêmement intéressant. Satan, c'est l'ennemi de nos âmes. Il va dire à l'homme et la femme, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Puis nous, on lit ça régulièrement, on connaît plus ou moins ça, Genèse 3, puis... Mais c'est quand même bizarre cette idée-là. Est-ce que ça veut dire que c'était il y a du God juice dans ce fruit-là ? Je peux prendre des caractéristiques de Dieu quand je mange ce fruit ? Ça veut dire quoi quand je serai comme un Dieu ? Tu sais ? Qu'est-ce que ça signifie fondamentalement ? C'est bizarre comme idée. Et je crois qu'à bien des égards, on se fait aussi avoir par ce mensonge-là, de prendre la place de Dieu. J'aimerais vous montrer trois façons qu'aujourd'hui on a de prendre la place de Dieu dans notre vie de tous les jours. Si vous n'êtes pas concerné par ça, gloire à Dieu, tant mieux pour vous. Moi, personnellement, je sais que je suis concerné par ça. D'accord ? La première de ces façons, on devient notre propre morale absolue. C'est nous qui décidons ce qui est juste et ce qui est faux. On sait mieux. Et souvent, on est comme ça. Souvent, on est comme ça. Aujourd'hui, plein de gens veulent décider ce qui est juste et faux pour eux-mêmes. Non mais je sais ce qui est juste. Puis ils disent que chaque situation est unique, par exemple. Parfois je dis à des gens, je ne suis pas sûr de ce que vous êtes en... Oui, mais je comprends, dans l'absolu, mais dans ma situation, c'est différent. Pour moi, c'est différent. Alors je sais ce qui est juste et ce qui est faux. Parfois, on décide aussi que ce que tu me dis là, c'était vrai avant, mais plus maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de choses-là. Souvent, c'est l'argument par rapport à certains demande de Dieu, qui dit, hey, faites ça de cette façon-là. Puis souvent, on dit, ouais, mais avant, il leur manquait de l'information, ils vivaient les choses différemment, ils n'avaient pas les mêmes possibilités, ils n'avaient même pas l'iPhone avant. Il n'y avait pas Google avant. Alors avant, c'était peut-être vrai, mais maintenant, on est plus évolué, on est plus avancé, on sait, donc maintenant, on peut se passer de certains des commandements d'avant. Le problème, là, je fais un tout petit peu de logique avec vous, le problème, c'est que ce présupposé est biaisé. Parce que ton maintenant d'aujourd'hui est le hier de demain. Et ça veut dire que ce que tu dis être vrai aujourd'hui ne tiendra plus demain. Si ton seul argument c'est que maintenant, on sait mieux. Donc on ne peut pas s'appuyer sur ça. Ce n'est pas logique, mais pourtant, de plein de façons, on prend cette position de « moi je sais, c'est moi qui sais ce qui est juste et ce qui est faux ». Dieu leur avait dit « ne prenez pas du fruit ». Et le serpent leur a dit, si vous faites ça, c'est vous qui allez décider ce qui est juste et ce qui est faux. Vous prenez la place de Dieu. Une deuxième façon de prendre la place de Dieu, c'est en pensant qu'on est essentiel. Encore une fois, peut-être plein, je vois à vos yeux, vous n'êtes pas du tout comme ça, vous. Mais souvent, on définit ce qui est juste ou faux, ou alors on devient notre propre autorité morale, ou alors on prend la place de Dieu en laissant d'autres penser qu'ils seront accomplis avec ou grâce à nous. Vous avez des doutes là-dessus, regardez les amoureux. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Il y a des amoureux dans la salle. Ou alors on se dit, ah, c'est sûr, il faut que j'aille les aider parce que sans moi, ils n'y arriveraient pas. On peut penser des fois à ça au travail. On peut penser des fois à ça dans la famille, dans le couple, dans l'église. Ils ont besoin de moi quand même. Et en fait, dans notre société de la selfie, on est souvent le propre héros de notre propre histoire. Et on peut vite en arriver à penser qu'on est nécessaire et pire encore, essentiel. Les gens ont besoin de moi. Et quand on prend cette posture d'être essentiel, quel que soit le contexte, on prend la place de Dieu. Parce que le seul qui est essentiel, c'est Dieu. C'est intéressant parce que Joseph, il aurait pu leur dire, « Vous avez raison de trembler, les frères. Vous faites bien de trembler. Parce que si vous êtes en vie, c'est grâce à moi. Si la famille est sauvée, c'est grâce à moi. Si le peuple est sauvé, c'est grâce à moi. » Il aurait pu leur dire ça. Mais Joseph, il n'est pas illusionné. Il n'est pas le héros de sa propre histoire. Et il a conscience de ça. Il a compris, puis ça fait un petit moment qu'il l'a compris. Si tu étudies la vie de Joseph en détail, si tu relis encore l'histoire de Joseph, tu verras, au début, il est sûr qu'il est capable d'interpréter les rêves. Puis à un moment donné, il est en prison, puis quelqu'un lui dit, « Tu peux interpréter les rêves, toi, non ?» Sa réponse, c'est, « Il n'y a que Dieu qui peut interpréter les rêves. Moi, je ne suis pas capable, mais raconte-moi ton rêve, peut-être, on ne sait jamais. » Il va le dire encore au Pharaon. Quand Pharaon dit, « On m'a dit que tu pouvais interpréter les rêves, il n'y a que Dieu qui peut interpréter les rêves. » Il n'est plus le héros de sa propre histoire. Il a compris qu'il n'était pas essentiel. Et je crois qu'on doit veiller à ça aussi. Dans notre propre vie, très souvent, c'est plus sournois qu'on l'imagine, mais on commence à penser qu'on est essentiel. Et quand on commence à penser qu'on est essentiel, gentiment, on prend la place sur le trône qui est réservé à Dieu. La troisième des façons, ça c'est juste pour vous donner un petit peu de matière à réfléchir, on peut prendre la place de Dieu en se faisant du souci de façon excessive. Je vais boire un peu d'eau pendant que vous prenez note. Dans Matthieu 6, un tout autre passage qu'on ne va pas lire ensemble, Jésus dit « Arrêtez de vous faire du souci au-delà du raisonnable. » Il le dit autrement, il le dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, boirez, ni de ce que vous allez porter comme habit. » Se faire du souci au-delà du raisonnable revient à penser qu'on sait mieux que Dieu ce qu'on a besoin. Puis je sais que c'est dur ce que je dis là, je sais, il y a certains caractères qui, on a plus besoin de ça. Mais quand on se fait du souci au-delà du raisonnable, c'est comme si, écoute, moi je sais ce que j'ai besoin, puis il faudrait qu'il y ait ça, plus ça, plus ça, puis alors je serai calme. Et tant que je n'ai pas ça, je ne suis pas calme. Quand on fait ça, on se met à la place de Dieu. Parce que Jésus il dit, ne vous en faites pas. Mon Père va pourvoir. Vous, occupez-vous de l'essentiel. Après avoir pleuré, Joseph commence sa réponse en disant « Je ne suis pas Dieu. » Il laisse le trône à Dieu. Et je viens de vous montrer comment on peut nous aussi manquer de laisser le trône à Dieu, comment parfois dans notre propre vie, dans nos quotidiens, on prend la place de Dieu. Mais ça, je vous ai montré hors de l'histoire de Joseph. Il y a une quatrième façon de prendre la place du trône de Dieu qui est celle que Joseph, lui, met en avant. On peut prendre la place de Dieu en gardant de l'amertume ou de la rancune. En fait, ce que Joseph il dit, c'est « Je ne peux pas vous en vouloir, les frères. Si je gardais de la rancune contre vous, je me mettrais à la place de Dieu. Seul Dieu peut juger. Seul Dieu peut savoir exactement le pourquoi, le comment. Seul Dieu, finalement, peut savoir exactement comment juger. Et nous, on doit apprendre à pardonner. » Un petit mot. Je vous laisse juste 3 secondes pour réfléchir à quel point c'est difficile de pardonner parfois. Parfois, on garde de l'amertume, de la rancune. Et quand on fait ça, on pense qu'on sait mieux que Dieu. On pense qu'on sait mieux que Dieu ce qu'il devrait faire, ce qui devrait se passer, comment ça devrait se passer. Je cite ici Tim Keller pour tous ceux qui sont dubitatifs. Quand tu cites Tim Keller, c'est bon, ça met tout le monde au clair, si jamais. Tim Keller, c'est un théologien, il a été pasteur de nombreuses années à New York. Il dit la chose suivante, « Seul Dieu a le droit de juger, seul Dieu a la connaissance pour juger de façon équitable et finalement, seul Dieu peut juger sans être affecté par son propre jugement. » Nous, on doit pardonner, les amis. Garder de la rancune, garder de l'amertume, c'est ne pas laisser à Dieu le trône. Les frères de Joseph lui disent, pardonne-nous, ne nous en veux pas. Et Joseph leur dit, mais qui suis-je pour vous en vouloir? Est-ce que je suis Dieu? Je vous ai déjà pardonné, les gars. Je suis déjà passé à autre chose. Je ne peux pas vous en vouloir, je ne dois pas vous en vouloir. Dans la réponse à ses frères, Joseph nous apprend une clé ici fondamentale. Devenir mature, c'est laisser le trône à Dieu. Alors là, pour tous les noteux, tous ceux qui prennent des notes, voilà deux questions ou trois que tu dois absolument te poser. Est-ce que je dois laisser le trône à Dieu? Est-ce que je dois abandonner l'idée d'être ma morale? Est-ce que je dois arrêter de me faire du souci excessif? Est-ce que je dois arrêter de garder rancune contre quelqu'un? Laisse le trône à Dieu. Je continue. Ça va, vous êtes toujours là? Vous vous souvenez du deuxième point? Prends ses lunettes. Prends les lunettes de Dieu. Prends les lunettes de Dieu. Joseph dit d'abord, je ne peux pas prendre la place de Dieu. Il dit, est-ce que je suis Dieu, moi? Puis ensuite, il dit, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu en a fait du bien. Vous aviez un projet qui était vraiment mauvais ce projet, mais Dieu, lui, l'a détourné, puis il a fait quelque chose de bien de tout ça. Laisse-moi te poser une question. Comment est-ce que tu regardes à tes soucis? Je ne vais pas poser la question naïve de, est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des soucis dans la vie? Je pense qu'on est tous d'accord de dire c'est une question évidente. Personne. Tout le monde. Ma question, c'est comment est-ce que tu regardes quand tu es face à tes soucis, à toi? Est-ce qu'il y a des hommes ici qui ont fait l'armée ou des femmes? Aujourd'hui, il y a aussi des femmes de plus en plus qui font l'armée. Il y en a qui ont fait l'armée ici? Ok, quelques mains. D'accord. Alors, dans l'armée, j'étais explorateur. Et un de mes boulots en tant qu'explorateur, c'était de faire des postes d'observation. Dans les cours de répète, c'était la misère parce qu'on passait du temps à rien regarder. Mais on devait faire des postes d'observation. Et puis du coup, on recevait l'information de regarder une région, on voyait ça sur une carte, voilà la région, on devait analyser cette carte, voir les éléments essentiels sur la carte. Souvent, c'était des passages, que ce soit un pont ou alors une route importante, essentielle. Puis on disait, ben, posez un poste d'observation, il faut que vous puissiez voir ce qui se passe là sans qu'on vous voie. Très simple, ok? Le principe est très simple. Et rapidement, on a compris quelque chose. Si on veut avoir une bonne vision, il faut qu'on prenne un peu d'auteur. Si on se met tout près, on risque d'être surpris. On risque de ne pas bien voir, on risque de manquer. Mais si on prend un peu de recul, si on prend un peu d'auteur, ça va mieux. Donc la plupart du temps, on se retrouvait, puis c'était toujours les mêmes exercices, on se retrouvait, on arrivait sur le point central qu'on devait voir, et on regardait autour de nous, est-ce qu'il y a des points en hauteur? Est-ce qu'il y a des endroits en hauteur où on pourrait aller avec nos véhicules, nos affaires, et puis se poser pour pouvoir observer depuis un peu de hauteur, voir un peu de loin ce qui se passe? C'est comme ça qu'on regarde bien la situation. Très souvent, quand on est dans nos problèmes, on a de la peine à prendre de la hauteur, hein. On est au cœur de nos problèmes. C'est comme quand tu travailles fort, on dit le nez dans le guidon. Tu es au cœur de tout ça, tu n'arrives pas à prendre du recul par rapport à ce qui t'arrive. Quand Joseph dit, vous vouliez faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien, en faisant ça, il révèle, par rapport à tout ce qui m'est arrivé, j'ai pu prendre un peu de recul, les amis. Si j'étais resté à m'apitoyer sur mon sort dans la citerne, je pense que je vous en voudrais encore. Si j'étais resté sur le fait que la femme de Potiphar m'a envoyé en prison de façon injuste et puis que j'ai été en prison, je pense que je vous en voudrais aussi parce que c'est à cause de vous que je suis rendu là. Je pense qu'il y aurait plein de gens à qui je devrais en vouloir. Mais quand je prends un peu de recul, je me rends compte que ça va en fait. Parce que Dieu a utilisé tout ça. Et il est capable de faire ça parce qu'il prend la perspective de Dieu. Souvent, il y a deux camps dans la vie. Tu connais cette histoire, il y a toujours deux camps dans la vie. Je ne sais pas si tu savais ça. On peut faire ça avec presque tout. On va le faire aujourd'hui avec les soucis. Il y a deux camps face aux soucis dans la vie. Il y a le camp des optimistes ici. Je lève la main comme ça juste pour voir, pour être avec vous. Il y en a qui sont plutôt optimistes, qui se disent plutôt optimistes. Ok. Ok. Le camp des optimistes, souvent, il se dit la chose suivante. La vie est belle. Dieu est bon. S'il t'arrive un problème, écoute, tiens bon, ça va passer. C'est après la pluie vient le soleil. Les problèmes, c'est une anomalie. Ce n'était pas désiré par Dieu au départ. Tiens bon, ça va aller. C'est bon, tu es là, mon gars, on est ensemble, ça va aller. D'accord? Ça, c'est les optimistes. De l'autre côté, on a ceux qui sont un peu plus pessimistes, un peu plus... Leurs remarques sont souvent remplies de sarcasme. Je n'ai pas demandé s'il y en a qui sont dans ce camp, mais si tu as levé la main pour là, ben... Voilà. Si ton voisin n'a pas levé la main, tu sais où il se trouve, hein. Peut-être qu'il n'écoutait pas, simplement, je ne juge personne. Dans ce camp-là, on se dit autre chose. Dans ce camp-là, s'il y a quelque chose de bien qui t'arrive, tu dis « jusqu'à quand ?» Méfie-toi. Tu verras, après le soleil, il y a toujours la pluie. Des fois, même à la fin d'une belle journée, il y a de la pluie. Méfie-toi. Puis même quand ils sont en train de bien vivre le truc, ils se disent « profite, parce que demain, tu ne sais pas. » Profite, demain, ça peut tourner tout de suite. Tu te réveilles, pied gauche, tu tapes le pied contre le bord du lit, c'est fini. Pour eux, rien n'est bien, la vie est dure, tu dois souffrir. Ne souris surtout pas trop quand tu célèbres, et puis reste sur tes gardes, on n'est jamais assez sûr. Et souvent, je caricature un peu ici, hein, mais souvent, un peu, hein, on dit la vie est belle parce que Dieu est bon, et puis on dit la vie est terrible parce que Dieu est mauvais, ou alors absent, ou alors pas assez actif. Puis on a ces deux camps qui sont là. Puis Joseph, c'est intéressant parce que si tu regardes Joseph, il dit autre chose. Joseph, il dit, la vie est dure, la vie est terrible, mais Dieu reste bon. Il dit, la vie, ça va être dur là, mais Dieu est bon. Ça m'a fait penser à ce qu'un pasteur jeunesse qui était collègue avec moi disait tout le temps, God is good, all the time. Vous l'avez connu ce pasteur? Ou alors il disait quelque chose de très connu. Dieu est bon, tout le temps. Tout le temps, Dieu est bon. Puis c'était marrant, il répétait toujours ça. On disait, on va prier, il disait, hey, God is good. On va prier, d'accord? On va prier juste à la fin de la prière. Au nom de Jésus, amen, God is good. Commencer une soirée, hey, tout le monde, ça va, God is good. Et il attendait que tout le monde dise, all the time. Anyway, Joseph, lui, nous dit, la vie est dure, mais Dieu reste bon. Joseph, il est passé, et encore une fois, je ne minimise pas les défis qui peut-être ont été les tiens ou qui sont actuellement les tiens. Je ne minimise en rien ça. Et je ne veux pas minimiser les défis que Joseph a dû, par lesquels Joseph a dû passer. Il a dû passer par des moments vraiment durs. Depuis le départ dans sa famille dysfonctionnelle, mais par la suite aussi, ça a été dur et ça a été long au passage. Hein. Minimum 22 ans, on en a parlé déjà. Mais long, des longs moments difficiles. Et quand il arrive à la fin, il ne dit pas « t'en fais pas, la vie est belle, vous en faites pas les frères, facile. » Non, non. Il dit « ouais, c'était dur, mais Dieu reste bon. » J'ai pris un peu de recul sur tout ce qui m'est arrivé. Dieu reste bon. Dieu reste au contrôle. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. Je crois que Joseph, il n'est pas optimiste, il n'est pas pessimiste. Il est juste avec une perspective chrétienne. Joseph ne prend pas le trône de Dieu. Par contre, il prend la perspective de Dieu, les lunettes de Dieu. Je trouve que c'est magnifique à voir, mais c'est aussi challengeant à vivre si on est honnête. C'est une chose hein, de le voir dans l'histoire de Joseph qui est très très loin de nous, des milliers d'années de nous, puis dire ouais, c'est pas mal. C'est beaucoup plus challengeant quand on se dit comment je vais vivre ça moi. Alors de nouveau, les noteux, vous pouvez prendre ces questions. Comment est-ce que tu parviens à regarder avec la perspective de Dieu? Quand tu es face à tes problèmes, est-ce que tu es optimiste, sarcastique ou alors confiant en Dieu, même dans les problèmes? J'arrive à mon dernier point. Finalement, manifester le cœur de Dieu. Comment Joseph en arrive? Ça, c'est une question que je me suis posée. On arrive à la fin, puis Joseph dit à ses frères, « Je vous aime et je veux vous faire du bien. » Écoutez même ce que Joseph dit, je lis ici le verset 21. « Désormais, n'ayez donc plus peur, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. » Ce n'est pas juste « je vais être bien avec vous », c'est « je veux que vous soyez bien » et que votre descendance soit bien. Je vais faire en sorte que les bontés que je veux pour vous, elles soient même reproduisibles pour vos enfants. Et je pense qu'il peut vivre ça parce qu'il suit ces deux premiers conseils. Il ne prend pas la place du juge, il reconnaît humblement que Dieu sait mieux que lui toutes choses, et du coup il peut aimer généreusement. Pourquoi est-ce qu'il peut aimer généreusement? Parce que ce n'est pas lui qui est le juge, ce n'est pas lui qui est sur la place, ce n'est pas lui. Et il peut aimer généreusement, pourquoi? Parce que God is good, no matter what. Quoi qu'il arrive, Dieu est bon. J'aime cette conclusion parce qu'elle est tellement pratique. Elle est tellement concrète. Ce n'est pas juste conceptuel. Laisse le trône de ton cœur à Dieu. Okay. J'étais à l'église, ils ont dit de laisser le trône de mon cœur à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est méga concept. Ou alors de dire, prends la perspective de Dieu. En vrai, tu ne peux pas prendre la perspective de Dieu pleinement. Tu peux prendre un peu de recul par rapport à ta perspective, mais c'est tout. C'est trop difficile. Il nous manque beaucoup trop d'informations pour prendre la perspective de Dieu. Si tu veux voir ça, lis la fin du livre de Job. Tu verras Dieu qui dit, mais t'étais où quand j'ai fait la fourmi? Tu ne peux pas savoir pourquoi ça et ça. T'étais où, toi? Donc on peut prendre un peu de recul sur ce qu'on vit, mais pas la perspective de Dieu. Donc ça, c'est vraiment conceptuel, puis ça pourrait rester au concept, et puis les plus fervents d'entre vous, vous diriez oui, amen, c'était bon, pasteur. Mais j'aime le fait que Joseph, et au travers de sa vie, il amène ça dans le concret, il dit, tu sais quoi, si tu fais ça, il va y avoir des fruits visibles, directs, précis. Tu vas vivre un style de vie qui manifeste le cœur de Dieu. Si tu laisses le trône de ton cœur à Dieu, ça te pousse dans l'humilité, et si tu prends la perspective de Dieu, ça te donne la confiance. Et si tu es en même temps dans l'humilité et en même temps dans la confiance, tu peux vraiment aimer ton prochain. Tu peux vraiment aimer ton prochain. Ton prochain qui ne te ressemble pas, tu peux quand même l'aimer. Ton prochain qui te fait du mal, tu peux quand même l'aimer. Ton prochain qui a fait des crasses et puis tu dis, mais j'aimerais juste... Tu peux quand même l'aimer. Tu peux quand même l'aimer. Pourquoi ? Parce que... Non pas parce que tu es naïf. Tu sais, des fois, quand on dit tendre l'autre joue, on pense, ah, les chrétiens sont naïfs. Non, non. Ils ont enlevé l'idée d'être sur le trône. Ce n'est pas du tout naïf. Il y avait des gens qui passaient par des horreurs. Puis on leur a dit, mais ça... Et ils étaient chrétiens, et puis on leur a dit, mais vous ne voulez pas lâcher votre Dieu? Et puis ils disent, non, non, j'ai besoin de ce Dieu-là. Parce que je sais que tous ceux qui me font vivre ces horreurs devront payer. Ce n'est pas du tout naïf, là. La justice, elle appartient à Dieu. Donc ce n'est pas naïf, mais du coup, je n'ai pas besoin, moi, de me faire justice. Je n'ai pas besoin, moi, de m'inquiéter. Je n'ai pas besoin, moi, de garder. Je peux être généreux, je peux être aimant, je peux tendre l'autre joue. Parce que je suis suffisamment humble, je connais Dieu, je sais la place qu'il a. Puis en même temps, je suis suffisamment confiant. J'ai pris un peu de recul. Joseph, il se révèle à la fois extrêmement humble dans cette réponse. Il pleure, il dit à ses frères, mais les gars, je vous aime. Mais il est aussi extrêmement confiant. Je vais vous bénir, même vos enfants, on va les bénir. Toi, ça veut dire quoi pour toi de manifester le cœur de Dieu autour de toi? J'ai fini chacun de mes points avec quelques questions. Je ne peux pas finir celui-ci sans quelques questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une situation auprès de laquelle tu dois manifester le cœur de Dieu? Être généreux, être dans l'amour, être dans le fait de donner. Et pas juste donner, je te donne un peu parce que bon. J'essaie de trouver une image pour que tu comprennes ça, c'est vraiment pas comme de dire juste, ben, tu sais, on va partager mon repas. Je vais te donner le repas, mon repas, je vais te le donner, puis je vais payer pour tous tes repas de la semaine. C'est un peu ça l'idée. Joseph, ce qu'il est en train de faire, c'est non seulement je vous ai pardonné les gars, mais je veux vous mettre bien, puis je veux mettre bien vos enfants. Comment est-ce que toi, tu peux manifester le cœur de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu dois pardonner? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois donner? Laisser le trône à Dieu, prendre ses lunettes et manifester son cœur. Je crois que c'est possible tout ça. Je crois qu'on peut devenir des rêveurs pleins de sagesse et de patience comme Joseph. Je crois que Dieu peut nous donner les clés de certaines villes et de certains contextes. Joseph a eu les clés de l'Égypte au passage. Je crois que Dieu veut faire ça. Parce qu'en fait, il l'a fait au travers de Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ est non seulement mort, mais ressuscité, et qu'il vit aujourd'hui encore, et qu'il nous équipe, et qu'il nous rend capables par son Saint-Esprit, nous aussi, on peut vivre ça. Je suis convaincu de ça. Mais en fait, c'est ce que j'ai laissé juste un tout petit peu percevoir au départ, puis que j'ai essayé de montrer, c'est que, en fait, par rapport à ses traits de caractère, et par rapport à cette dimension, cette direction de vie, Joseph préfigurait Jésus, le Sauveur. Il y aurait plein de choses théologiques à vous dire ici, riches et pertinentes, mais laissez-moi juste vous montrer quelques exemples. Jésus a été trahi lui aussi, trahi par un ami. Et Jésus, plus que n'importe qui, aurait été dans le droit de se faire justice. Mais il a décidé d'aller à la croix. Pourquoi ? Pour nous. Il n'a pas voulu se faire justice malgré le fait qu'il a été trahi. Il a été jusqu'au bout pour nous. Il voulait qu'on puisse retourner dans les bras du Père. Et du coup, il a été d'accord de souffrir injustement. Quand Joseph dit « Vous avez projeté de faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien », je crois que c'est une des meilleures explications de ce que c'est que la croix. Pense à la croix un instant. La mort sur la croix, c'était une des tortures qui étaient les plus tristement répandues. Il n'y avait rien de bon à la croix, il n'y avait rien de bien à la croix. C'était jamais un projet, tu sais, ouais, j'espère un jour je serai sur une croix. T'sais, non, personne ne voulait la croix. Jésus lui-même, avant de vivre ce moment-là, il prie, si je pouvais éviter ça. Personne ne voulait la croix, mais pourtant, il a été à la croix. Et la croix est devenue un symbole tout à fait différent pour nous aujourd'hui. Un symbole d'amour, un symbole d'espoir. Vous aviez projeté de faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. Je crois que quand on contemple cet exemple de Jésus, et quand on prend au sérieux ces mots, qui dit qu'au travers de son Saint-Esprit, on sera capable de faire les choses qu'il a faites, et même des plus grandes, ça devrait nous pousser à la fois dans l'humilité et à la fois dans la confiance, un peu comme Joseph. Et on devrait être un peu plus pressé de manifester le cœur de Dieu pour notre entourage. Je crois sincèrement que quand on contemple ça, on devrait... Moi, ça me pousse de me dire comment est-ce que je peux faire ça pour mes voisins? Comment est-ce que je peux faire ça pour ceux que je côtoie qui ne connaissent pas encore Dieu? Je ne méritais rien. Je ne méritais rien du tout, pas du tout, que quelqu'un d'innocent meure à ma place. Ça me donne une grande confiance parce que si Dieu trouve que c'était juste et bon, alors il a quelque chose qu'il veut nous révéler. Alors je crois que tu peux devenir comme Joseph. Tu peux toi aussi laisser le trône à Dieu, prendre ses lunettes et manifester son amour. Pour Joseph, ça a demandé du temps et un travail de son caractère opéré par Dieu. Je crois que pour nous, ça demande de vivre avec Jésus et de suivre Jésus. Quand je regardais et je faisais ces études sur ces passages, sur la vie de Joseph, en particulier sur la fin, c'est Tim Keller qui m'a beaucoup inspiré, puis je termine avec une citation de lui qui ne va pas apparaître à l'écran. Il dit ces trois choses, les trois choses que je viens de vous définir, laisser le trône à Dieu, prendre la perspective de Dieu et manifester son cœur, ces trois choses sont les marques d'un cœur qui a été transformé par Dieu. Puis je crois que tout le but de la marche du chrétien, c'est de laisser notre cœur être transformé par Dieu. Mais c'est quoi d'être chrétien? C'est de laisser son cœur être transformé par Dieu. Suivre Jésus, c'est ça. C'est-à-dire, Jésus, j'ai mon cœur, à plein d'égards, il est tordu, il est faux. C'est quoi? Transforme-le dans ce que toi seul tu peux faire. Alors on va finir et puis j'aimerais vous proposer deux temps alors qu'on termine. Le premier temps, en lien avec ce que j'ai dit au tout départ, j'aimerais qu'on fasse un temps de silence, malgré la clim et puis les cris de mes enfants. On va faire un temps de silence. Juste réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça? Vous pouvez poser la question dans tous les sens. Est-ce que mon cœur a été transformé par Dieu? Est-ce que mon cœur, il y a encore des parties de mon cœur qui doivent être transformées par Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que je dois lui laisser? Le trône, l'histoire des lunettes, l'histoire du cœur de Dieu manifesté. Est-ce qu'il y a des gens? Prenez-le dans le sens que vous voulez. Mais prenons un temps de silence. Je vais l'ouvrir par une très simple prière. Puis après un petit moment de silence, il y a Karim qui va venir, puis qui va jouer. Et puis, pendant ce temps-là, j'aimerais que vous puissiez réfléchir à des actions pratiques que vous allez faire à la sortie de ce message, à la sortie de cette série. J'ai toujours cette peur en tant que pasteur qu'on fasse plus de l'information que de la transformation ici. Puis je pense qu'une des façons de faire de la transformation, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je vais faire de ça? Puis soyez vraiment pratiques, cette semaine, qu'est-ce que je peux faire de ça? Dans les semaines qui viennent, qu'est-ce que je peux faire de ça? Peut-être ça va ressembler juste à un message, hein, c'est pas grave, même si c'est une petite chose, mais faisons quelque chose de ça. Mais d'abord, laissons Dieu nous parler. Et pour ça, pour ouvrir ce temps de silence, je vais simplement prier. En disant, Seigneur, tu connais chacun de nos cœurs mieux que nous-mêmes. Par ton Saint-Esprit, dans ce temps de silence, parle-nous.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.